Merci Christophe. Et merci au groupe qui a conduit la louange et particulièrement pour le dernier chant qui nous a ramené, mon épouse et moi, quelques années en arrière sur le home évangélique quand on l'a chanté avec la chorale et tout. Ça faisait depuis ce temps-là que je ne l'avais pas entendu, il est toujours aussi magnifique. Donc merci pour vous être inspiré. Et puis c'est vrai qu'il introduit très bien ce que nous allons partager, donc merci. Merci aussi pour Claudia, je crois qu'elle a eu l'idée de la boîte à idées, parce qu'on s'est rendu compte que ce n'est pas facile de poser des questions sur ce sujet. Donc, c'est très bien, c'est une excellente idée, on ne l'avait pas eue, merci. Ce sera plus simple comme ça, si vous avez des choses à demander, que ça vous est difficile de prendre la parole en public, eh bien, un petit peu aujourd'hui si on peut, et puis sinon la semaine prochaine, on essaiera de regrouper des questions similaires, etc., et puis d'y répondre avec vous, d'accord ?
On rentrera dans le cœur du sujet la semaine prochaine. Comme ça, on vous fait la suite au prochain numéro. Et donc, les questions seront traitées de façon certaine la semaine prochaine. Donc, en fait, cette soirée, les enfants ne craignent rien en restant avec nous. Donc, on est bien heureux d'avoir une jeune adote ici, parce qu'on va faire une entrée en matière douce.
Voilà, j'espère que certains ne seront pas trop déçus. Hein. Mais on voudrait... Vas-y, Christophe.
Vous pouvez envoyer le... Merci.
Voilà, on voudrait parler d'une sexualité qui se construit aujourd'hui. Et contrairement aux films d'Hollywood, contrairement à l'image que la société nous envoie, il n'y a pas de sexualité qui soit heureuse s'il n'y a pas en fondation, avant l'acte sexuel, une intimité, une amitié qui se construit avant... et qui donne une base et qui donne une fondation à toute relation physique ensuite. Donc c'est encore moi.
Ah oui, c'est toi.
Voilà, j'aimerais que l'on revienne aux fondamentaux et ce que l'on se demande, ce qu'est l'intimité. On aurait pu l'appeler aussi l'amitié, mais on va l'appeler l'intimité dans ce objectif de définir le couple. Voilà, si on revient aux fondamentaux, comment est-ce que le premier couple a été créé ? Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il faut se souvenir que quand Adam était, avant même qu'Ève soit créée, quand Adam était seul, il avait tout à la perfection. C'est-à-dire qu'il avait une intimité avec Dieu qui était extraordinaire, puisqu'il n'avait pas cherché Dieu. Dieu venait le rencontrer le soir, la Bible nous dit. Et je ne sais pas exactement comment ça se passait, comment les jours étaient, comment ces journées se passaient, mais il y avait une communion qui n'avait aucun nuage. Ils étaient... les deux meilleurs amis du monde, et ils discutaient des choses. Adam avait reçu un appel clair, il avait reçu du Seigneur, le fait de garder le jardin d'Éden, de nommer les animaux, il avait une responsabilité, et donc son appel était clair, lui était reçu directement de Dieu. Il avait une santé parfaite, on peut imaginer, puisque pas de maladie, pas de mort, puisque le péché n'était pas entré, et il vivait dans le plus bel endroit du monde, puisqu'il vivait dans le jardin d'Éden. Alors, vous dire, qu'est-ce qui lui manquait ? Rien.
Ève.
Il y en a certains qui vont plus vite que moi. Pour un homme, il lui manquait rien. Sauf que, à un moment donné, alors qu'il avait tout à la perfection, il a manifesté un manque. Et je pense que Dieu avait fait les choses volontairement comme cela pour que le manque vienne du cœur de l'homme. Que ce ne soit pas Dieu qui dise « il te manque quelque chose » alors qu'il ne s'en rendait pas compte, mais qu'il y ait une prise de conscience qu'il n'avait pas trouvé une aide semblable à lui, un partenaire semblable à lui. Et devant ce constat que malgré tout ce qu'il avait à la perfection, bien il ne se sentait pas complet, à ce moment-là, le Seigneur lui a fait la première opération chirurgicale et lui a donné Ève. Et ensuite, il y a eu cette union, c'est ce dernier verset. Et l'homme dit, voici une fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme.
Donc l'intimité ou l'amitié ou l'union entre un homme et une femme, c'est pas une fin en soi, comme Eric l'a dit, mais c'est une progression tout au long de la vie. Et on peut faire un parallèle entre cette intimité entre l'homme et la femme, Adam et Ève au démarrage, et Dieu et nous. Parce que dans ce dernier chant que vous avez choisi, par exemple, c'était très bien expliqué, nous sommes l'épouse de Dieu et il viendra nous chercher. La finalité de notre relation avec Dieu, c'est d'être son épouse. Intéressant comme parallèle, n'est-ce pas ? Il utilise des termes, et on va le voir tout au long de ces deux soirées qui viennent, le parallèle que Dieu utilise entre la relation qu'il veut avoir avec nous, comme un mari qui viendra chercher son épouse. Le jour des noces, les noces de l'agneau, on parle de noces, on parle d'épouse, on parle de mari. Jésus sera notre époux. Et la relation entre l'homme et la femme. Il y a donc un parallèle à faire entre les deux. Ce qui nous montre la sainteté de cette union entre un homme et une femme. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une finalité en soi, c'est une progression qui va nous emmener à comprendre en fait la relation que Dieu veut avoir avec nous quand on sera avec lui au ciel. Ça va, vous êtes avec nous ? Ça marche ? Bon. Qu'est-ce que l'intimité apporte ? Tout un tas de choses. Une fusion, en fait, le fait d'être un. Un des dangers dans le couple, c'est de se retrouver à deux célibataires, l'un à côté de l'autre, pas de devenir un. Or, dans l'union d'Adam et Ève, il y a cette union à la fin, donc cette fusion, où les deux ne font plus qu'une seule chair. Et l'acceptation de l'autre aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais notre conjoint, ou notre futur conjoint, ou notre potentiel conjoint, conjointe, ne sera pas parfait, ou n'est pas parfait. On sera parfait.
J'espère qu'il n'y a pas des fiancés qui vont être super déçus, là. Mais, non, ça va. La perfection n'est pas de ce monde, oui.
La fusion, l'union, c'est aussi l'acceptation de ça, que l'autre n'est pas parfait. Dieu nous aime comme nous sommes. Est-ce qu'il attend que nous soyons parfaits pour faire de nous sa future promise ? Non. En fait, il nous accepte comme on est. Pour qu'il y ait cette fusion aussi, il y a besoin d'avoir une confiance mutuelle. La confiance, ce n'est pas quelque chose d'automatique. Et il arrive parfois que l'on fasse des choses qui nous blessent, qui blessent l'autre. Il faut passer par le pardon, qui est une étape indispensable. On ne peut pas parler d'un couple s'il y a des choses qui ne sont pas pardonnées entre le mari et la femme. On ne peut pas parler d'un couple s'il y a des choses qui ne sont pas pardonnées. Après le pardon, vient la reconstruction de la confiance, en fait. Donc, ce sont deux choses différentes, mais indispensables. La compassion, évidemment, aussi. La compassion, ça veut dire souffrir avec. Quand on est en couple, c'est pas que pour les jours roses. Il y a des fois, c'est difficile, plus que d'autres. Et le fait d'avoir de la compassion l'un pour l'autre nous permet de vivre les épreuves et de nous rapprocher l'un de l'autre, en fait. Comme Eric a dit, l'épreuve construit la foi. Ça construit aussi le rapprochement entre les deux. Tout ça fait partie de la construction de l'intimité, en fait, de l'union entre l'homme et la femme. Est-ce que vous avez réalisé, pour ceux qui sont mariés, que Dieu est votre beau-père ? Parce que Dieu, c'est mon père, n'est-ce pas ? Donc, oui, Eric va vous raconter une histoire amusante à ce niveau-là. Mais donc, Dieu, c'est mon père, quelque part, c'est le beau-père d'Eric, n'est-ce pas ?
Donc, c'est une histoire vraie. Et il y avait aux États-Unis une jeune fille mexicaine qui venait faire ses études au Texas. Et donc, elle entend parler de Jésus, sans doute sur le campus, et elle se convertit, et elle commence à aller à l'église. Et c'est vraiment quelqu'un de très bien, très consacré au Seigneur, qui vraiment est fidèle. Et puis elle se met à servir. Elle a un cœur pour Dieu extraordinaire. Et arrive un jeune homme américain qui lui aussi se convertit et commence à venir à l'église. Et puis évidemment, il trouvait cette jeune fille mexicaine particulièrement jolie et intéressante. Et il commence à se rapprocher d'elle, espérant plus si affinité. Et le pasteur, par contre, voyant le manège du jeune homme, n'était pas du tout de cet avis, parce qu'il pensait qu'il était bien moins consacré qu'elle, et il avait peur que ça aille trop vite. Trop jeune converti, il voulait qu'ils prennent leur temps, etc. Mais vous savez ce que c'est quand on est jeune, hein, on n'écoute pas toujours. Et pour faire une histoire plus courte, finalement, ils se sont rapprochés tellement qu'ils se sont fiancés, et puis ils ont eu le projet de se marier. Et le mariage devait se faire au Mexique. Donc ils sont partis, la célébration se fait là-bas, etc. Ils reviennent après le voyage de noces, et les semaines et les mois passent. Et là, évidemment, le pasteur inquiet de savoir comment ce couple va évoluer, les scrute, et puis il s'aperçoit en fait que tout se passe bien, et non seulement bien, mais ce jeune homme devient de plus en plus sérieux, il est attentionné avec sa femme, il prend soin d'elle, elle s'épanouit, elle est heureuse, jusqu'à un moment où le pasteur convoque le jeune homme marié, le jeune homme, et il lui dit « Écoute, j'ai besoin de te rencontrer parce qu'il faut que je te demande pardon ». Il dit, tu sais que j'étais contre ton mariage, je pensais que vous alliez trop vite, mais force est de constater que depuis que tu es marié, eh bien, tu es un mari exemplaire, ta femme est épanouie, vous êtes heureux, c'est une évidence, donc je me suis trompé, pardon. Il dit, et explique-moi ce qui s'est passé, il y a eu un tel changement, une telle transformation. Et le jeune homme avait un immense sourire, il dit, vous connaissez pas mon beau-père ? Et le pasteur dit, non, je suis jamais allé au Mexique, je suis jamais allé là-bas, donc non, dis-moi. Elle dit, voilà ce qui s'est passé, c'est que une semaine avant le mariage, ils sont allés là-bas et il a rencontré sa future belle famille. Et le beau-père l'a emmené dans un endroit à l'écart et Ce que personne ne devait savoir, j'imagine, c'est que le beau-père, c'était un baron de la drogue. Et il lui a dit, voilà, tu prends ma fille, je te préviens que si tu la rends malheureuse, je vais te tuer dans de telles souffrances et ça va prendre tellement de temps que tu vas t'en souvenir, mais ça va être une telle douleur que tu le regretteras pour toujours. Il a dit, ça m'a motivé parce que j'avais pas envie qu'il m'arrive ça et j'avais compris que mon beau-père ne plaisantait pas avec sa fille. Alors, passant l'anecdote et ce qui nous fait sourire, nous avons pour beau-père Dieu. Parce que quand nous prenons un de ses fils ou une de ses filles, eh bien, le Seigneur ne nous promet pas des tortures et des souffrances, mais il nous dit par contre qu'un jour, on pourra pas lui dire, ouais, mais ta fille, c'était pas ça, hein. Ou ton fils, non, vraiment, tu t'étais mal débrouillé avec. Un jour, il nous dira, pourquoi ou comment as-tu pris soin de ma fille? Comment as-tu pris soin de mon fils? Et à ce moment-là, il nous faudra rendre compte à Dieu.
Vous allez vous en souvenir, hein, que Dieu, c'est votre beau-père. Le respect aussi est un fruit de l'intimité, de l'amitié que l'on construit. Le respect, ça veut dire quoi? C'est l'équilibre entre l'indépendance et l'interdépendance l'un avec l'autre. La fusion entre le mari et la femme ne veut pas dire qu'ils vont d'un seul coup complètement disparaître et on va plus avoir qu'une masse informe de personnalité et de caractère. Non, pas du tout. Les deux restent qui ils sont, mais ils deviennent un, c'est les mathématiques de Dieu. 1 plus 1 égale 1. Et donc il faut faire attention non plus à ne pas se perdre dans cette fameuse recherche de la fusion, mais à rester qui on est, en s'améliorant, en se développant, mais en rester qui on est dans l'amitié que l'on développe. Donc, est-ce que ça vous semble un bon programme par rapport à ce que ça apporte, le fait d'être épanoui dans le mariage? Est-ce que tout le monde, ceux qui sont mariés ou pas mariés, ne rêvent pas de ça? D'avoir un mariage heureux, épanoui, où on reste qui on est, mais amélioré, où on peut partager, avoir un soutien et vivre comme ça jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. C'est pas le rêve, ça? Amen. Mais c'est ce que Dieu veut pour nous, hein. Mais ça se construit.
Alors, ce qu'on aimerait partager avec vous maintenant, c'est cette échelle assez rigolote, comme ça. Et en fait, on voudrait voir avec vous quels sont les différents niveaux d'intimité ou d'amitié qu'il nous faut construire pour bâtir un couple. Quelqu'un a dit quelque part que le vrai bonheur, c'était d'épouser son ou sa meilleure amie. Et c'est vrai. Pouvoir tout partager, n'avoir aucun secret, pouvoir s'ouvrir d'absolument tous ses soucis sans risquer d'être moqué, d'être tourné en ridicule, sans risquer de s'exposer et d'être blessé. C'est ça, en fait, un mariage qui est solide. C'est de pouvoir être tellement ami que oui, Rachel est mon... Je le dis volontairement, mon et ma meilleure amie. Je n'ai personne avec qui je peux être aussi à nu devant elle sans rien craindre. Aussi bien physiquement que émotionnellement, que spirituellement, je peux tout partager avec celle que Dieu m'a donnée. C'est le but qu'il n'y ait rien qui sépare de mariés puisque nous sommes un aux yeux de Dieu. Et cette unité doit être à tous les niveaux et l'amour parfait bannit quoi? L'amour parfait bannit la crainte.
Alors quand on rencontre quelqu'un pour la toute première fois, On va d'abord discuter au niveau intellectuel, on va parler, de la politique, de ce qui se passe en ce moment dans le monde, etc. Puis après, on va voir comment on interagit en groupe, puis après, on va peut-être passer à des activités plus récréationnelles, etc. Donc en fait, on va suivre avec vous le cheminement de comment se développe une relation entre deux personnes. Et puis vous allez voir après, plus il y a affinité, comme on l'a dit. Donc vous pouvez le visualiser soit en linéaire comme ça, donc intellectuel, social, récréationnel. Excusez-nous pour le L qui est descendu. C'est un passage de Mac à PC. Voilà. Sur le nôtre, il est bien à la bonne place. Émotionnel, spirituel, sexuel. Maintenant, si vous voulez le voir de façon plus circulaire, parce qu'on est tous un peu différents, vous remarquez qu'au centre de la cible, c'est le dernier, sexuel. Donc, vous voyez, c'est le dernier à atteindre. Et puis, donc, on commence par l'extérieur, intellectuel, social, récréationnel, émotionnel, spirituel et sexuel.
Alors, commençons par l'intimité intellectuelle. La première chose, on a besoin de se rencontrer d'abord pour pouvoir découvrir l'autre. C'est difficile de pouvoir savoir qui est l'autre si on n'a pas l'occasion de discuter au moins un peu ensemble. Donc, il n'est pas question de cloîtrer nos jeunes à l'intérieur et puis de dire non, tu sors pas. Puis on attend que Dieu te révèle quelque chose avant que tu puisses rencontrer quelqu'un. Non, on a besoin d'avoir certains contacts avec les autres et à nous, adultes, de favoriser cela dans les meilleures des conditions. Le premier des contacts, c'est donc l'intimité intellectuelle. savoir se respecter mutuellement, respecter les pensées de l'autre, ses opinions, ses idées, être capable de parler des choses qui se passent dans le monde, de parler de ses opinions politiques sans se battre, très important. Vous n'êtes pas forcé de voter la même chose, mais au moins vous devez pouvoir en parler. Apprendre ensemble certaines choses, faire ensemble certaines choses, se fixer des objectifs communs, planifier, ça aussi. Être capable de parler de tous ces détails de la vie quotidienne au niveau intellectuel, c'est une des premières bases de ce que l'on peut établir comme relation avec quelqu'un d'autre. Et c'est sans danger, puisque c'est extérieur à nous, c'est simplement au niveau de l'intellect. Donc on peut, à volonté, voir si en fait on a des atomes crochus avec telle ou telle personne. Si on est vraiment trop différent à tous les niveaux, on peut légitimement se dire « je suis pas sûr, est-ce que ça va marcher ?» Mais si on sent qu'on commence à avoir, sans être forcément constamment du même avis, mais si on sent qu'on s'entend bien, si on sent qu'il y a des choses où on accroche bien, c'est un premier bon signe.
Donc on peut, on est tous dans des positions différentes dans cette audience aujourd'hui. Vous avez des célibataires et des couples mariés. Donc on peut aborder notre présentation de deux façons. Soit vous êtes en couple et alors vous réfléchissez, est-ce que vous avez ces différentes étapes dans votre relation ? Vous faites le point dans votre tête pour après en parler ensemble. Est-ce qu'on discute tous les deux au niveau intellectuel ? Vous allez voir, on va vous donner des questions pratiques, etc. Donc vous pouvez le prendre pour vous, pour faire une analyse de où vous en êtes dans votre couple. Si vous êtes célibataire, eh bien vous pouvez réfléchir à quelle est votre position à vous, où est-ce que vous en êtes pour vous à ce niveau-là. Parce que le jour où, si le Seigneur vous donne un conjoint, eh bien il faudra mettre en commun quelque chose. Et si vous avez commencé à y réfléchir déjà, je vous assure que ça vous aidera. Vous n'arriverez pas à, je sais pas, j'ai pas fait mon opinion sur moi-même. Rien de plus difficile que de pas savoir quand on a un différent dans le couple. Des fois, quand on n'est pas d'accord avec Rick, je lui dis « mais qu'est-ce que tu voudrais que je fasse ?» Des fois, il me dit « je sais pas ». Eh ben, ça marche pas. Oui, parce qu'en fait, il faut qu'il puisse savoir pour pouvoir m'expliquer comment je vais pouvoir l'aider. Donc, il faut apprendre à se connaître soi-même pour pouvoir ensuite mettre ça en commun.
On voudrait tordre le cou à certains concepts qui nous disent que si tu m'aimes, tu devrais savoir. Alors ça, mesdames ou messieurs, mais des fois on l'entend peut-être plus un peu dans la bouche des dames, je suis pas sûr.
Non.
Mais oh, si tu m'aimes, tu devrais savoir. On n'a pas le droit. Ça, c'est du Shakespeare, c'est du roman du Lamartine, si vous voulez. Mais je suis désolé, quand moi-même je sais pas ce que je veux, comment je peux espérer que ma femme le sache? C'est super injuste. Donc, ah mais si tu m'aimes, ça veut pas dire que je t'aime pas, mais juste au moins déjà explique-moi comment tu fonctionnes, après je pourrais comprendre, dis-moi qui tu es. Donc pour ça, il faut y travailler.
Donc si vous n'êtes pas célibataire, voilà une zone de niveau intellectuel où il est très safe, très sûr de discuter avec d'autres personnes du sexe différent, parce que c'est comme ça qu'on apprend à se connaître. Voilà une zone à explorer. À quoi ça ressemble, par exemple? Juste pour vous donner quelques idées.
Alors, vous n'êtes pas forcé d'y répondre, mais simplement posez-vous la question pour vous-même, ou bien regardez si ce sont des sujets que vous abordez dans votre couple régulièrement, ou vous n'auriez pas de problème à répondre à ces questions. Où vous voyez-vous dans 10 ans, par exemple? C'est un bon sujet de discussion. Que considérez-vous être votre plus grand accomplissement? Si on vous pose la question, qu'est-ce que vous répondriez? Comment définissez-vous le succès? C'est quoi, à vos yeux, avoir du succès dans la vie? Vous voulez réussir votre vie? Vous voulez réussir dans la vie? C'est quoi votre définition? C'est quoi votre ambition? C'est pas un péché d'avoir de l'ambition. D'accord? C'est même important d'en avoir. Mais pas de l'ambition forcément égocentrique, mais on peut avoir de l'ambition pour des projets, de l'ambition pour atteindre certains objectifs dans la vie et faire des choses. Donc quelles sont vos ambitions? Quels sont vos principes de vie? Pour quel projet, quelle idée êtes-vous prêt à vous battre? Et voyez, là, quand on est capable de commencer à répondre soi-même à ces questions et que quelqu'un vient avec des idées qui sont relativement similaires, ça vous met un petit peu la puce à l'oreille, dit « ah, tiens, c'est intéressant, on a le même projet ». S'il y a des projets qui sont complètement opposés les uns aux autres, ça ne veut pas dire que l'autre a de mauvais projets, mais peut-être simplement qu'ils ne sont pas compatibles ou ils ne s'harmonisent pas avec les vôtres. C'est tout, ça ne va pas plus loin. Dans quel domaine voudriez-vous vous former? Vous avez envie de faire quoi dans la vie? Il y a parfois peut-être des métiers qui ne sont pas compatibles. Si vous avez envie de travailler sur une plateforme offshore, ou bien, je sais pas, d'être dans la marine militaire et puis de partir 6 mois de l'année, il est peut-être bien que votre épouse le sache avant que vous vous mariez. Parce que peut-être qu'elle ne conçoit pas du tout, même que vous ne soyez pas là tous les soirs. On en rit, mais ce sont des détails qui n'en sont plus une fois qu'on est marié. Il vaut bien mieux en parler avant. Parce que si on a des ambitions qui ne sont pas compatibles, eh bien, on s'arrête avant que de s'être fait mal. si on s'unit et puis qu'après on se fait mal et qu'on se déchire, c'est bien plus dramatique. Qui voudriez-vous voir devenir le prochain président ? Alors ça, attention, on ne veut pas que vous vous disputiez, mais combien de fois dans la vie on parle de la politique, etc. ? En France, on le fait souvent, remarquez dans d'autres pays aussi. Et c'est notre... heureusement, vous savez, au Laos, il n'y a jamais de suspense dans les élections, puisque c'est ou le parti, ou le parti, ou le parti. Là, il n'y en a qu'un. Donc en fait, il y a toujours des élections très calmes, parce qu'en fait, on sait déjà avant d'avoir voté qui va être élu. Donc il n'y a pas de problème. Ils se disent, pour nous, ça marche très bien le système, parce que personne ne se dispute jamais, c'est sûr. Il ne peut pas y avoir de dispute dans les rues. Mais nous qui sommes dans une vraie démocratie, eh bien, on peut avoir des idées divergentes. C'est intéressant de savoir en parler d'une manière posée et de partager ses arguments.
Alors voilà comment on pose la première brique, le niveau intellectuel. Si vous êtes célibataire, réfléchissez-y pour vous-même. Si vous êtes marié et que vous dites « Oh là là, on n'a jamais parlé de ça », vous avez manqué un premier barreau. Vous allez voir les conséquences après.
Il n'est pas trop tard, hein. Il n'est pas trop tard pour vous y mettre. Hein. Les élections arrivent bientôt, donc allez-y.
Jamais trop tard. Mais si vous êtes avant le mariage, pensez-y. Voilà une première chose à réfléchir. Deuxième barreau, deuxième brique que l'on construit. Quelqu'un veut réagir avant qu'on passe à la deuxième brique ? Il fallait venir avant. Ce n'est jamais trop tard. Jamais trop tard pour bien construire.
On prend des rendez-vous, hein, au cas où. On reviendra autour des élections l'an prochain, au cas où il y a des problèmes.
Alors, le niveau social, c'est là où on est en relation avec d'autres. Quand on sort avec un groupe de jeunes, par exemple, eh bien, mine de rien, on peut observer comment la personne qui peut-être nous intéresse ou on a l'impression qu'il y a quelque chose interagit en groupe. Ça va nous donner déjà une idée de qui cette personne est. Voilà un très bon endroit en public et avec plein d'autres personnes pour faire connaissance. Rien ne nous empêche de discuter à deux quand on est dans un groupe, dans une sortie de groupe de jeunes. On peut discuter, apprendre à se connaître sans que personne commence à penser les choses. C'est tout à fait normal et tout à fait à encourager que des jeunes discutent ensemble pour apprendre à se connaître. Des fois dans nos églises, on a, peut-être que ça n'existe pas en région parisienne, mais quand moi j'étais plus jeune, eh bien, il fallait surtout pas qu'on se parle, surtout pas qu'on les garçons soient avec les filles, etc. Mais comment est-ce qu'on pouvait espérer qu'ils se découvrent et qu'on n'ait pas de catastrophe après une fois qu'ils sont mariés. S'ils n'ont pas appris à se connaître un peu avant, où est-ce qu'ils vont en fait ? Donc voilà un cadre très, encore une fois, sécurisé. Vous allez voir que le côté sécurisé pour nous est très important quand on construit une relation. Vous êtes en public, vous êtes à l'extérieur, avec d'autres gens, eh bien allez-y, discutez des questions, voyez si vous avez des atomes crochus.
Alors le niveau social est très complémentaire du dialogue intellectuel parce que c'est une chose d'avoir des idées semblables, c'est une autre de voir aussi comment... peut-être votre futur conjoint fonctionne en public. Est-ce que c'est quelqu'un qui va se mettre dans un coin et pendant que tout le monde danse, il va ouvrir un bouquin, il va se plonger dans le bouquin, il va parler à personne ? Et pourquoi pas ? C'est pas grave. Mais mes parents ont dit que la première fois que ma mère a vu mon père, c'était ça. Tout le monde dansait, s'amusait. Mon père était dans un coin sur une chaise en train de bouquiner.
Maintenant, il dit, j'aurais dû le savoir.
il a 88 ans maintenant. Il n'a pas changé. Il a toujours un bouquin dans les mains partout où il va. Donc ça, c'est si vous n'aimez pas la lecture. Mais vous voyez comment l'autre interagit dans un groupe. Et l'interaction sociale, c'est très important.
Une fois que votre couple est formé, réfléchissez si vous avez des amis en commun. Est-ce que vous avez des amis en tant que... Eric et Rachel, ou est-ce que vous avez des amis que Eric ou que Rachel ? Est-ce que vous avez su créer des amitiés qui vous considèrent comme un couple ? C'est bien de garder ses amis d'avant, quand on était plus jeune, pas de problème. Mais est-ce que vous avez des amis aujourd'hui en tant que couple, qui vous connaissent en tant qu'un ? Ça participe à l'union, à la fusion entre les deux, si on développe des amitiés en commun. Est-ce que vous avez des amis non chrétiens ? Voilà quelque chose de très important aussi, parce que sinon on tourne un peu en rond, dans un aquarium plein de poissons et on ne fait plus attention à son langage, etc. Vous avez besoin d'avoir des amis non chrétiens qui vous connaissent en tant que couple, avec qui vous avez des relations normales, entre guillemets.
Alors ne nous méprenez pas, on n'est pas en train de vous dire qu'il faut aller faire n'importe quoi avec ceux qui font n'importe quoi. Mais vous savez comme moi qu'il y a des tas de gens qui sont extrêmement bien et qui malheureusement ne sont pas encore convertis. C'est important aussi de conserver, comme Rachel disait, à un moment donné dans ma vie, on était pasteur d'une église à Troyes, et puis j'ai pris conscience, je pense que c'était le Saint-Esprit qui nous a aidés, que en fait, je n'avais aucune vie en dehors de l'église. C'est-à-dire, j'étais constamment baigné dans un milieu de chrétiens, à tel point que je me suis dit, mais en fait, je prêche des choses, par exemple le jeudi soir pour l'évangélisation, que je ne vis pas. C'est-à-dire, je dis aux gens, allez voir les autres, mais moi-même, je ne le fais pas, parce qu'en fait, je suis constamment dans le milieu d'église, m'occupant de ci, de ça, de gauche et de droite. Donc, ça a été une démarche volontaire. Il faut que j'aille voir mes voisins, il faut que je sache qui ils sont, et que j'aille rencontrer des gens, et que j'ai une interaction avec des gens du dehors, ne serait-ce que pour mon équilibre à moi, pour savoir où j'en suis, pour être sûr que je vis dans le même monde qu'eux. Et attention à mon langage, parce qu'on est capable d'avoir un patois de Canaan dont on n'est même plus conscient nous-mêmes. C'est quand je me suis converti, c'est là que j'ai compris que je disais plein de gros mots avant, parce que je ne m'en rendais pas compte tant que j'étais pas converti. Et c'est un peu le mécanisme inverse. Quand on est chrétien, on peut avoir un langage qui n'est compréhensible que par ceux qui sont initiés dans l'Église.
Mais alors,
les frères, les sœurs, ils se disent « Waouh, t'es une grande famille hein !» Et de toutes les couleurs et de toutes les nationalités, etc. Impressionnant. Mais on se rend pas compte, une fois que quelqu'un s'est mis dans ma famille très en colère, c'est qu'un pasteur que je recevais chez moi m'a dit « Oui, nous les chrétiens ». Mais l'autre personne de ma famille, c'est quelqu'un de catholique, il dit « Bah alors nous on est quoi, des chiens ? Si vous êtes les chrétiens, nous on est quoi alors ?» Et il avait raison. C'était pas voulu pour être offensant, mais il avait raison. On parlait notre patois entre deux pasteurs et on faisait plus attention au monde extérieur. Donc nous sommes appelés à être le sel de la terre. Le sel, il faut qu'il soit jeté sur les aliments, pas conservé dans le pot. Dans le pot, il sert à rien. Le pot, c'est l'Église. Excusez-moi pour l'image. Mais il faut qu'on aille dehors si on veut remplir notre fonction.
Si vous êtes célibataire et que vous avez des amis très proches, un jour, ils ne devront plus être si proches que ça. Parce que celui ou celle qui sera votre conjoint devra prendre cette place. Viendra à cette position de mon meilleur ami ou ma meilleure amie. Bien sûr, vous garderez vos amitiés et on vous encourage absolument à ça. Mais attention, si moi j'ai une amie et je dis plus de choses à elle qu'à mon mari, il y a un petit décalage. Ou si je travaille pas et que je reste à la maison, ben je fais pas attention à comment je suis habillée ou quoi que ce soit. Et puis hop, d'un seul coup, mon mari rentre et je suis en pyjama, par exemple. Et d'un seul coup, je me rends compte, ah tiens, je dois aller voir ma copine à 5h et boum, d'un seul coup, je me maquille, habille, etc. Quel message je lance à mon meilleur ami ? Bah, qu'elle est plus importante que lui. Donc il va y avoir, c'est très bien qu'on ait des amis avant de se marier, mais soyons conscients qu'il va y avoir un changement après et que ce meilleur ami va devenir celui avec qui je partage ma vie.
Juste entre parenthèses, nous ne sommes pas du tout favorables à ce qu'un garçon ait pour meilleur ami une fille et vice-versa. Nous n'y croyons pas. Peut-être que ça choque certains d'entre vous, mais malheureusement, on ne peut jamais être garant, même si vous dites « Non, moi ça va, je suis au clair, j'ai pas de sentiments », vous ne pouvez jamais savoir ce qui se passe dans le cœur de l'autre. Et parce que, vous le verrez à la fin de ce temps, parce qu'en partageant à tous les niveaux d'amitié, en fait, on crée des choses, après au niveau émotionnel, etc., etc., on peut jamais garantir de comment une relation va évoluer. Donc attention aussi aux relations d'exclusivité entre deux filles ou deux garçons, parce que vous allez le comprendre aussi, c'est quelque chose qui peut devenir dangereux et qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, où des gens se retrouvent à combattre des sentiments... on peut le dire, d'homosexualité, alors même qu'ils ne le sont pas, mais parce qu'ils ont ils ont créé une exclusivité avec une seule personne et après se retrouvent bien accrochés par un phénomène très naturel de construction.
On vous y emmène, hein, vous allez comprendre un peu plus haut dans l'échelle. Alors, comment pratiquement, à quoi ça peut ressembler ? Par exemple, quelle est votre période de l'année ou votre fête préférée ? Noël, Pâques, Thanksgiving pour les Américains ou le monde anglo-saxon ? Comment étaient vos amitiés pendant votre enfance ? Est-ce que vous avez encore des amis de quand vous étiez en maternelle ou est-ce que non, vous avez perdu de vue tout le monde, par exemple ? Quel serait votre week-end favori avec des amis ? Avec qui partiriez-vous ? Ouais. Ce genre de discussions sont super importantes à avoir dans un couple. C'est la brique numéro 2.
C'est important de savoir si votre rêve de vie sociale, c'est de passer le week-end à la pêche, tous les week-ends si possible.
Tout seul.
Et voilà. Ou bien si c'est de sortir le samedi soir avec des amis, d'avoir un bon dîner, un cinéma, etc. Les deux ne sont pas antinomiques, mais si c'est une tendance forte, il vaut mieux savoir avec qui vous allez vous unir. Parce que ne vous attendez pas, surtout mesdemoiselles, peut-être encore plus que messieurs, à ce qu'une fois marié, je vais le changer. Je suis désolé, je voudrais pas briser vos espoirs, mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas tout à fait comme ça. Vous allez pas lui retirer le championnat de France de foot comme ça du jour au lendemain, si c'est un habitué depuis des années, etc.
Donc, on fait des compromis.
On fait des compromis, heureusement. Et on apprend à aimer ce que l'autre aime aussi. Mais soyez avertis.
Moi, j'ai appris à regarder le rugby non pas pour le rugby, mais parce que j'aime bien regarder Eric regarder un match de rugby.
Je sais pas du tout ce que ça veut dire.
Ah si, je me raconterai. Troisième brique.
Voilà. Donc, on a vu l'intimité intellectuelle, on a vu l'intimité sociale, et maintenant l'intimité récréationnelle. Alors, ça veut dire quoi? C'est la capacité d'entretenir son amitié, donc tous les deux, soit quand on est déjà marié, soit avec quelqu'un avec qui on projette de se marier, et d'avoir des moments de fun. Alors, on n'appelle pas fun ou amusement TRAVAIL, c'est-à-dire qu'il faut savoir, à certains moments, débrancher. Et certaines personnes ne savent pas débrancher. Donc ça aussi, ça vous envoie un message. Si vous avez besoin de vous détendre, de passer du temps le week-end en débranchant complètement, et si l'autre personne entend débrancher en ramenant du boulot à la maison et en continuant de bricoler sur l'ordinateur parce qu'il y a un truc à réparer, etc., ça vous envoie aussi des messages. Il faut en parler, il faut en discuter. Qu'est-ce que vous faites pour vous amuser? Est-ce que vous avez des centres d'intérêt qui sont compatibles ou alors ils sont complètement séparés? Comment est-ce que vous aimez passer votre temps libre? C'est important de savoir mettre du temps à l'écart pour votre couple et ou alors pour partager avec d'autres amis des moments comme est-ce que vous aimez le cinéma? Est-ce que vous aimez aller faire du sport? Est-ce que vous aimez toutes sortes d'activités? C'est important d'en parler parce que si vous ne savez pas ménager ces temps, eh bien la vie ne vous les ménagera pas pour vous. Or, on a tous besoin d'avoir des moments où on se détend. Et la question, c'est comment est-ce que vous aimez vous détendre?
Si vous êtes seul, ne passez pas votre temps libre à espérer être marié et vous ferez des choses quand vous serez marié. Non. Développez ce côté-là dans votre vie. Vous avez besoin de faire des choses qui vont vous convenir, vous plaire. D'abord, vous allez rencontrer du monde, etc. Vous pouvez inviter, je ne sais pas, si vous aimez jouer au tennis, trouver quelqu'un dans l'église qui joue au tennis. N'attendez pas d'être marié pour mettre en route cette case dans votre vie, mais au contraire, ayez-la déjà bien développée, bien présente, parce que ça va contribuer à votre équilibre. La solitude peut être longue et dure parfois. Donc, allez faire du sport ou allez regarder un film si c'est ça qui vous plaît. Ça va vous aider à trouver l'équilibre.
Et peut-être trouver des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt, les mêmes activités récréationnelles. Si vous allez faire votre jogging tous les matins et que vous croisez après tous les matins une même personne, peut-être que, je ne sais pas. En tout cas, vous avez au moins quelque chose en commun déjà.
Bon, et maintenant, si vous êtes marié, est-ce que vous avez arrêté toute activité sportive ou est-ce que vous avez arrêté tout loisir? Qui a dit oui? Si oui, eh bien peut-être qu'il faudrait reprendre des choses dans votre couple, apprendre à apprécier ce que l'autre aime faire, ou trouver une troisième activité que vous développeriez en commun. Mais qu'est-ce que vous faites pour vous amuser dans votre couple? Est-ce que c'est seulement la famille, les enfants, le travail, les soucis, ou est-ce que vous prenez du temps pour faire des choses qui vont vous détendre et vraiment vous amuser? Je ne vous parle pas d'une fois tous les 10 ans, quoi. Qu'est-ce que vous faites tous les mois, tous les 15 jours? Tous les trimestres pour vous amuser.
Rachel et moi, le samedi, on fait la cuisine ensemble.
Oui,
c'est beau. Hein, ouais. Mais ça nous amuse surtout et ça nous fait passer du temps et c'est super récréatif.
On faisait la vaisselle aussi à un moment donné. Et puis, ouais.
Puis on nous a offert un lave-vaisselle.
On nous a offert un lave-vaisselle.
Mince.
Mince. Comment?
Donc, encore une fois, posez-vous ce genre de questions. Est-ce que vous pouvez décrire le sport, la musique, les films ou le hobby préféré de votre conjoint? Si vous en avez un, sinon, travaillez sur ça pour vous-même. Et si vous n'êtes pas capable de répondre et que vous êtes marié, peut-être qu'il faut commencer à s'y pencher. Et dire, mais chérie, au fait, c'est quoi que tu aimes? Parce que peut-être qu'on ne fait que ce que moi j'aime, et au fait, c'est quoi toi ce que tu aimerais? Et peut-être que vous allez prendre un risque et voir qu'il y a des tas de choses que votre conjoint aimerait faire aussi. Et après tout, ça peut être drôle de le faire ensemble. Quelle est l'activité la plus folle que votre conjoint ait essayé? Peut-être sauter d'un pont avec un élastique? Je sais pas. Ça peut être plein de choses. Quel est son souvenir le plus fort au niveau d'un hobby? Quelle est l'activité que vous aimeriez essayer et que vous n'avez encore jamais tenté, etc.? L'objectif est d'apprendre à découvrir comment l'autre fonctionne. Si vous êtes dans une future relation, vous pensez à quelqu'un, parler de ces choses-là vous montre aussi votre niveau de compatibilité et la possibilité d'être ensemble ou pas. Si ça vous semble quelque chose qui vous avez la paix, ou si ça vous semble tellement impossible, vous êtes tellement différent que peut-être pas.
La différence n'est pas un obstacle. Hein.
Non.
Je n'aimais pas le rugby. Hein.
Je sais pas comment c'est possible, mais bon.
Alors, on reprend ces deux images pour vous montrer la progression. Au niveau, si vous êtes linéaire, au niveau de l'échelle, intellectuelle, sociale, récréationnelle. Vous voyez, on monte un cran après l'autre. Au niveau circulaire, si vous préférez cette approche-là, ces trois niveaux sont à l'extérieur du corps. D'accord ? Donc, les trois premiers barreaux de l'échelle sont très sécurisés, encore une fois, pour les groupes de jeunes, ceux qui cherchent le prochain conjoint, etc. Vous voyez qu'on a fait un espace entre récréationnel et émotionnel. Pourquoi ? Parce que dès qu'on passe au niveau émotionnel, eh bien, on passe à l'intérieur du corps de l'autre. On va toucher à l'âme, avec le spirituel, on va toucher à l'esprit, avec le sexuel, on va toucher au corps. Âme, corps et esprit, ça vous rappelle rien ? C'est ce qui nous compose, c'est ce qui fait qu'on est un. C'est la trinité que Dieu a donnée à l'être humain. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, nous, on est âme, corps et esprit. Dès qu'on passe au niveau émotionnel, on touche l'intérieur de l'autre. Donc, quand on va développer une relation exclusive avec une personne en attaquant au niveau émotionnel, eh bien, on crée des liens qui vont aller se planter à l'intérieur de l'autre. C'est pour ça que ça fait mal quand ça casse. Donc, voilà un niveau qu'on va aborder différemment. Le niveau émotionnel, spirituel et bien entendu après physique. Au niveau exclusif, c'est-à-dire quand on entretient une relation qu'avec une seule personne, on va le développer. Ça, c'est réservé pour ceux qui vont se marier ou qui sont mariés, qui sont en couple. L'exclusivité, encore une fois, on insiste. Hein.
Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant ? Est-ce que c'est clair avant d'aller plus loin ? Si vous avez des choses que vous n'avez pas bien compris ou vous ne cernez pas trop, dites-le maintenant afin qu'on puisse mieux expliquer la question et que vous ne soyez pas largué en cours de route. Tout est clair ?
On va développer ce qu'on vient de dire. Bien entendu, si vous êtes seul et célibataire, il faut avoir quelqu'un, plusieurs personnes avec qui vous partagez au niveau émotionnel, avec qui vous priez au niveau spirituel, évidemment. On travaille beaucoup avec des missionnaires célibataires sur les champs. Quand on a en face de nous une jeune fille ou un jeune homme seul, eh bien, on les encourage à avoir un groupe d'amis avec qui elles vont pouvoir parler. On les met en garde contre l'exclusivité, comme Eric a décrit, avec une seule personne, par exemple, qu'elle soit fille ou garçon, même sexe ou pas même sexe. Parce que si vous avez une exclusivité, vous avez une création de lien à l'intérieur l'un de l'autre. D'accord ? Et on passe on monte les barreaux, on passe des étapes sans même s'en rendre compte. Mais quelqu'un qui vit seul, bien entendu, a besoin de partager ses émotions. On va voir pourquoi. A besoin d'avoir quelqu'un avec qui prier, un groupe d'amis, plus deux ou trois personnes. C'est pas la peine d'avoir 20 personnes, mais il faut avoir aussi cette ouverture pour pouvoir parler.
Et donc une dernière chose, quand vous êtes non marié, célibataire et que vous allez, non tu peux repasser à l'endroit. Oui, non, c'est bon, c'est encore la bonne. Quand vous êtes en recherche, tant que vous, une fois que vous avez des atomes crochus au niveau intellectuel, social et récréationnel, c'est le moment de faire une pause et de demander au Seigneur si c'est la bonne personne. Parce que là, vous pouvez encore vous rétracter complètement, vous ne vous êtes engagé en rien. C'est pas une fois que vous êtes engagé émotionnellement et spirituellement qu'il faut faire marche arrière. C'est encore temps, heureusement, tant que vous n'êtes pas marié, mais ça fait déjà très mal si vous faites machine arrière. Alors que si vous vous arrêtez là, après le niveau récréationnel, etc., que vous faites déjà le point à ce moment-là, que vous dites « Seigneur, montre-moi si c'est la bonne personne », eh bien, que la réponse soit non, eh bien, vous êtes en sécurité. Si la réponse est oui, vous pouvez aller plus loin et commencer à avancer dans le domaine émotionnel. Donc, j'aime beaucoup ce texte de C.S. Lewis, si vous arrivez à le voir avec moi. Voilà. Voilà ce qu'il dit. La raison pour laquelle nous recherchons un accomplissement en dehors de notre mariage est parce que nous n'avons pas autorisé Dieu à nous montrer les profondeurs de joie et de bonheur qu'il veut nous donner dans notre relation actuelle. Encore une fois, le désir de Dieu d'une relation maritale, c'est de nous apporter un épanouissement, un travail sur nous-mêmes. Très souvent, on découvre nos propres problèmes quand on est marié. J'ai découvert que j'avais un problème avec la colère. Une fois que j'ai été dans un couple, quand je vivais seul, je m'acclimatais très bien avec moi-même. Je partageais mon avis, souvent. Mais une fois que j'ai été marié à quelqu'un qui partageait pas forcément mon avis, j'ai compris que j'étais coléreux. Parce que j'aimais pas ça, que ma femme ait un avis différent du mien. Et c'est là que j'ai compris que j'avais un problème, qu'il fallait que je travaille sur moi-même.
Vous vous souvenez qu'on reste individuel quand même. Donc on passe à la brique suivante, l'intimité au niveau émotionnel. Dans intimité... En anglais, ça, on peut vous dire aussi « intimacy », à l'intérieur de toi, je vois en fait. Dans cette idée de construire l'intimité, ça va nous amener à voir à l'intérieur de l'autre, à rentrer à l'intérieur de l'autre en fait. Donc il s'agit d'accepter l'autre sans réserve, avec dans les bons et les mauvais jours, avec les qualités et les défauts, n'est-ce pas ? Ça, c'est pour ceux qui sont plus jeunes mariés. Nous, on est encore jeunes mariés, donc tout va bien. C'est aussi très important de s'ouvrir, d'ouvrir son âme à l'autre à ce niveau-là, au niveau des émotions. Est-ce que vous partagez l'un avec l'autre ce que vous ressentez à l'intérieur, ce que vous vivez à l'intérieur? Est-ce que vous le partagez ou est-ce que non, vous en restez à ce qui est superficiel?
Alors, un bon moyen pour... en fait, on est à deux trucs d'écart. Voilà.
Parce que t'es plus dans le...
D'accord.
Ah, c'est bon.
OK. Donc, quand vous êtes déjà en couple, une très, très bonne idée pour entretenir cette relation émotionnelle, c'est d'organiser... Alors, nous, on le fait une fois par semaine, déjà depuis un bon paquet d'années, un rendez-vous amoureux. C'est ce que veut dire le RDVA. Mais un rendez-vous amoureux, ça doit être fait avec des règles à respecter. C'est pas forcément aller au cinéma ensemble, quoique ce soit une très bonne chose, mais ça c'est plutôt une activité récréationnelle. On peut varier les endroits et les styles, on peut alterner la responsabilité de ce moment-là. On peut décider si c'est une fois par semaine, si c'est une fois tous les 15 jours, etc. C'est surtout pas un temps où on va parler de nos problèmes. Si vous vous êtes disputé juste avant, peut-être reculer d'une heure et puis parler de ce qui s'est passé, parce que vous allez être hypocrite sinon et vous allez avoir une certaine tension entre vous. Donc c'est pas le moment pour régler ces conflits, ni pour parler des choses qui fâchent, ni pour prendre des décisions. C'est juste un moment pour retomber amoureux. C'est, j'aime bien dire à ma femme « je t'aime », mais quelque part dans « je t'aime », il y a comme un « ok, c'est fait, c'est conquis, c'est acquis ». Et voilà, c'est comme quelque chose, on tourne la page. Et comme si j'ai plus rien à faire, c'est un fait. Je préfère lui dire je suis amoureux de toi. Pourquoi ? Parce que quand je suis amoureux, il faut que je te mérite encore, il faut que je me batte pour toi, il faut que je te plaise encore, il faut que je te séduise encore comme au début. Il faut que je retrouve l'estomac qui se serre et les papillotes dans les yeux quand je te vois, etc. Après 20 ans de mariage, je crois que c'est super important de continuer de se battre pour ça.
On va vous expliquer au niveau hormonal ce qui se passe la semaine prochaine. Pourquoi les papillons dans le ventre ?
Pour qu'un rendez-vous amoureux marche bien, c'est important, mes frères, de débrancher le téléphone portable. Si, vous m'avez bien entendu, de débrancher le téléphone portable. Et à moins que ce soit vos enfants qui ont un cas de force majeure, vous n'y répondez pas. Même si c'est votre patron. Pourquoi ? Parce que vous êtes avec la personne qui est la plus importante au monde pour vous, c'est votre conjoint. Même si le président de la République téléphonait, il peut attendre. Même si votre patron téléphone, ça peut attendre. Pourquoi ? Parce que vous êtes avec la personne qui est la plus importante au monde. Dieu vous a donnée. Si vous faites ça une heure par semaine, deux heures par semaine, n'attendez pas à ce que ça se crée. Il faut le vouloir. Et vous allez voir qu'il vous faudra vous battre pour que ce rendez-vous puisse se maintenir au cours des temps. Si un jour, vous ne pouvez pas tenir le rendez-vous, eh bien, il faut que d'un commun accord, on dise « ok ». Bon, d'habitude, par exemple, on le fait le vendredi, eh bien, on le repousse au samedi, mais on laisse pas une semaine se passer sans qu'on l'ait vécu. Parce qu'on en a besoin. Et toute la semaine, eh bien, moi, je pense au moment où, le vendredi, je vais être avec ma femme et on sera que tous les deux, et c'est un moment à nous, tout seuls. Vous allez me dire, oui, mais quand on a des enfants en bas âge, c'est pas, on peut aller dans un café, mais on peut aussi rester à la maison.
On les met au lit à 7h du soir. C'est ce qu'on a fait pendant des années.
Et puis, comme ça, on se libérait nos soirées. Les pauvres, hein. Ils le savent hein, de toute façon. Quand ils étaient petits, on ouvrait les portes, les fenêtres pour entendre ce qui se passait dans l'appartement en haut. Et puis nous, on marchait en bas au bord de la Seine. Là-bas, la Seine à Troyes, elle est toute petite, hein, donc c'est pas comme la Seine à Paris. Et ça nous permettait d'avoir un moment en amoureux tous les deux. Et surtout, on parlait pas boulot. Ça, messieurs, c'est super dur. Pour moi, je me fais souvent taper sur les doigts. On parle pas travail, on parle pas de choses sérieuses, on parle juste de nous deux.
Si vous ne programmez pas de temps comme ça pour ouvrir votre âme l'un à l'autre, quand est-ce que vous le faites ? Certainement pas entre deux rendez-vous chez les dentistes pour les enfants, ou entre deux factures à payer, ou entre deux réunions pour l'église, ou entre deux métros. Ouvrir son âme et partager ses émotions, ça a un coût, c'est fatigant, c'est prendre un risque, et bien ça se programme et ça s'organise, parce que sinon, ça n'arrivera pas. Hyper important de partager ses émotions parce que ça lance un message d'amour, on va accélérer un tout petit peu, d'appréciation, on se sent aimé pour qui on est, de soutien. L'autre va être là si j'ai peur pour une raison ou pour une autre, je sais qu'Éric peut l'entendre, et de consécration aussi. En fait, on est dans la même barque. Quand on s'engage devant Dieu, on n'a pas l'option, bien sûr, je sais qu'aujourd'hui ça se fait de plus en plus, mais devant Dieu, notre union est scellée. Qu'on se soit trompé ou pas, peu importe. Du moment qu'on est marié, ça y est, on est dans la même barque jusqu'à la fin. L'anneau, c'est un cercle sans fin, il n'y a pas de porte pour en sortir, normalement. Voilà quelque chose de très important à comprendre aussi dès le début.
Alors, pourquoi est-il tellement important de partager nos émotions ? C'est facile pour nous de comprendre que nous avons un corps, que nous avons un esprit, et on le dit aussi, nous avons une âme, d'accord ? Mais en fait, le verbe « avoir » veut dire qu'on peut l'utiliser ou pas. En fait, c'est pas juste. Dieu nous a créés et nous sommes un corps, nous sommes un esprit et nous sommes une âme. Alors si je vous dis c'est quoi votre esprit, c'est quoi votre corps, vous allez sans problème me définir ce que c'est. Mais si je vous demande c'est quoi votre âme, eh bien on a tous un problème pour répondre à ça et on sait pas trop en gros ce que c'est et comment on fait avec. Alors on va dire bah, j'ai une âme, ce qui veut dire que bon je m'en sers ou je m'en sers pas, si je sais pas trop je la mets de côté et je continue de vivre. Le problème c'est que ça marche pas comme ça. Notre âme c'est le siège de nos émotions, le Seigneur nous l'a donné pour que l'on puisse réagir vis-à-vis des choses qui arrivent dans notre vie, et notre âme elle existe, elle est vivante et elle a besoin de s'exprimer comme notre corps a besoin de s'exprimer, de se dépenser, de manger, comme notre esprit a besoin de fonctionner. Sinon quelqu'un dont l'esprit ne fonctionne plus mais qui a encore un corps physique, c'est un légume, et dans les hôpitaux, il y en a malheureusement. Notre âme a besoin de vivre. Alors, ce très beau dessin symbolise votre âme. Vous n'avez jamais vu votre âme comme ça, je suis sûr.
Un peu mathématique.
Alors, on va essayer d'accélérer pour que ce ne soit pas trop long, mais voilà. Il faut que je clique vers là-bas. Ok. Si je vous disais, je vais vous donner une série d'émotions, de sentiments, et si je vous disais ce que vous avez vu Jésus exprimer la tristesse, par exemple, on voit Jésus exprimer de la tristesse, par exemple, devant le tombeau de Lazare, devant les femmes à Jérusalem, quand il entre dans Jérusalem. Et il le fait, en plus, il pleure en public et devant des femmes, ce qui, pour un homme de sa culture, était la pire des hontes et la pire des... C'est une manière de perdre la face. Et pourtant, il l'a fait pour nous montrer que c'est pas un acte de faiblesse pour un homme de pleurer. Les gars qui sont ici, là, ce soir, on a tous entendu, quand on est un gars, on pleure pas. Il n'y a rien de plus faux que ça, parce qu'on ne va pas dire que Jésus, c'était quelqu'un de faible. Et notre Dieu et notre Sauveur, il a pleuré en public. Est-ce qu'on a vu Jésus avoir peur quand il était dans le jardin de Gethsémané? Oui, il a prié pour que la coupe s'éloigne de lui, puis il s'est repris. Il a même demandé aux apôtres de venir l'aider à prier. Lui, Jésus, Fils de Dieu, Dieu lui-même, a demandé aux apôtres de venir l'aider. Est-ce qu'on a vu Jésus être dans l'embarras quand Pierre a coupé l'oreille de Malchus avec son épée? Je suis sûr qu'il n'était pas extrêmement fier de lui. Et qu'à un certain moment, il a dit, mais pendant combien de temps il va encore falloir que je reste avec vous? Il n'a pas toujours été extrêmement fier de ses apôtres. Il a exprimé aussi de l'embarras. Est-ce qu'on le voit exprimer de la frustration, notamment avec ses apôtres? Oui, on le voit des fois râler contre eux, etc. Est-ce qu'on voit Jésus exprimer la douleur? Bien entendu, à la croix, quand il est fouetté. Est-ce qu'on voit Jésus exprimer de la colère dans le sens de l'indignation? Oui, j'en parlais ce matin, quand il a tressé le fouet pour chasser les marchands du temple. Pourquoi est-ce que c'est important tout cela? Pourquoi est-ce qu'il ne s'agit pas de détails? Parce que bien souvent dans notre culture, en fait, nous ne nous autorisons pas à exprimer nos émotions. Combien, les femmes peut-être un peu moins, mais combien d'hommes sont handicapés de l'émotionnel? On ne sait pas, on est mal à l'aise, on n'y va jamais, on ne sait pas comment en faire avec nos émotions. On se dit « Waouh, je ferme les portes à double tour parce que j'ai pas envie de me mettre à pleurer, j'ai pas envie de perdre le contrôle de moi. » On en fait un problème de fierté et on empêche notre âme de respirer. Et ça, c'est terrible. Parce qu'en fait, ça n'est jamais sans conséquence. Donc, qu'est-ce qui se passe quand en fait on n'autorise pas notre âme à s'exprimer? Eh bien, il y a quand même un système de sécurité que Dieu a construit en nous. Vous voyez, on continue d'éprouver de la tristesse, de la peur, de l'embarras, de la frustration, de la douleur et plein d'autres sentiments que j'ai pas mis ici. Et à un moment donné, ça fait comme une cocotte minute et ça explose. La pression monte et ça explose. Et ça peut exploser soit sur la forme d'une colère, et cette colère-là, elle n'accomplit pas la volonté de Dieu, c'est celle qui peut tout détruire en quelques instants. Parce que, en fait, cette colère, elle peut exprimer de la peur, elle peut exprimer des larmes, elle peut exprimer plein de choses à la fois. Et pour certaines autres personnes, ce ne sera pas la colère, mais des larmes. On va dire, mais pourquoi tu te mets en colère ou pourquoi tu pleures? Ben, on ne sait pas. Et en fait, c'est une soupape de sécurité parce qu'on ne sait pas s'exprimer émotionnellement. Et entre nous, il faut que je sois capable de tout partager avec mon conjoint parce que c'est ma sécurité et je peux, sans honte, partager tout ce que je ressens avec Rachel. Je sais que je serai entendu. Le désir de Dieu, en fait, c'est qu'on soit capable de faire vivre notre âme et d'être tout moment pouvoir partager toutes nos émotions avec celui ou celle que Dieu a placé avec nous.
C'est-à-dire que quand on est seul, on peut se poser cette question, à qui est-ce que j'ai un mentor, est-ce que j'ai quelqu'un que je forme? C'est bien d'avoir quelqu'un aux deux étages, quelqu'un qui me forme et à quelqu'un à qui je forme, avec qui j'enseigne, avec qui je partage les choses que j'ai apprises. Est-ce que j'ai quelqu'un ou plusieurs personnes, donc un petit groupe, avec qui je peux partager? Quand j'ai mal, quand j'ai peur, quand je suis triste, avec qui est-ce que je partage?
Alors, quelques questions encore une fois.
Si votre voiture tombe en panne, qui est-ce que vous appelez en premier? Est-ce que c'est votre conjoint ou qui est-ce que vous appelez en premier? Si votre ami proche décède, avec qui est-ce que vous avez partagé ce deuil? Comment est-ce qu'on réagit quand on traverse un deuil? Certaines personnes vont aller courir ou aller faire 2 heures de sport pour évacuer la tristesse, la peine, et d'autres personnes vont rester assises à contempler le plafond pour évacuer le deuil ou pour vivre le deuil. On le gère différemment selon qui on est. Comment est-ce que vous le gérez? Si vous avez une promotion, avec qui vous allez partager cette joie? Est-ce que vous pouvez pleurer l'un avec l'autre?
Donc on vous laisse répondre à ces questions, on vous les laisse lire un petit peu, et puis y répondre pour vous-même.
Quel était le moment le plus heureux ou celui le plus triste de votre vie? Est-ce que vous en avez déjà parlé ensemble? On vous conseille 2 très bons livres. Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il existe pour le couple, pour les enfants, pour les ados, etc. C'est un très bon livre à travailler ensemble si vous êtes en couple. Aussi, Elle et lui de Willard and Harley.
Il semble que le titre ait changé en français maintenant. Et je ne me souviens plus du nouveau titre.
Je ne sais pas. Il y a quelques semaines, c'était encore ça, mais on a entendu que le titre avait peut-être changé. Si jamais vous ne le trouviez pas, on vous donnerait des références. C'est un très bon livre aussi qui aide pour la construction du couple. Excellent. Peut-être qu'il faut qu'on garde. Est-ce qu'il est l'heure?
Ouais.
Il est 7h30. On avait prévu de vous partager encore un barreau. On peut le garder pour la semaine prochaine si vous avez des impératifs. Est-ce que des personnes doivent partir? Vous voulez qu'on arrête? On continue encore un peu?
On continue. D'accord, merci.
Émotionnel et spirituel, ces deux barreaux-là ont un très faible espace l'un avec l'autre. Encore une fois, cette fois-ci, on parle de liens qui se passent à l'intérieur de l'autre. Attention, entre les 3 derniers barreaux, l'espace est très faible et on saute de l'un à l'autre en quelques secondes, sans s'en rendre compte. Bien sûr, si je commence à partager mes émotions et que je suis triste ou que j'ai de la peine, qu'est-ce qu'on va faire après? On va se mettre à prier. Bien sûr, c'est normal. Quand on est avant le mariage, voilà une zone dangereuse. Parce que si vous êtes engagé, ok, vous savez que vous allez vous marier, le mariage est prévu, même vous y allez directement, très bien. Vous allez commencer à partager vos émotions, c'est bien, il faut commencer à bâtir, etc. Vous allez vous mettre à prier, devenir plus intime au niveau spirituel. Voilà à quoi ça ressemble.
Donc, c'est pourquoi on vous dit cela? Parce qu'il y a un danger pour ceux qui sont fiancés de passer physique avant le mariage et cela détruit certaines choses très importantes entre vous. Et on va vous en parler la semaine prochaine. C'est aussi important de comprendre que dans le monde chrétien, la première cause d'adultère, et il y a plusieurs formes d'adultère, je dirais des adultères accidentels, c'est justement dans la relation d'aide. Pourquoi? Parce que quand on est chrétien et que quelqu'un souffre, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'approcher de la personne, quel que soit son sexe, encore plus si c'est quelqu'un du sexe opposé, alors là, attention, danger. Et on va partager, voilà, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi de quoi tu souffres. Et on va partager au niveau émotionnel. Et des liens se créent. Et après, quand on est 2 chrétiens et qu'on a partagé au niveau émotionnel, on fait quoi? On prie ensemble. Le Seigneur va t'aider, etc. Et quand cette relation devient trop forte, devinez ce qui se passe. Le dernier étage est à quelques centimètres de vous, à quelques, malheureusement, un accident de vous. Et on connaît des exemples extrêmement graves et tristes où des personnes qui n'avaient pas eu l'intention de faire ce genre de choses sont tombées dans ce piège parce qu'ils s'étaient rapprochés d'une manière qui n'était pas saine. Donc encore une fois, il est important de pouvoir, quand vous avez besoin de partager, que vous partagiez avec quelqu'un déjà du même sexe, et encore, de le faire dans des circonstances où vous n'êtes pas seul, et puis de le faire de manière qui soit équilibrée, pas exclusive, et en faisant attention de ne pas franchir ces lignes. Surtout pas avec le sexe opposé, ça, évidemment.
Bien sûr, avec 2 célibataires, on peut à des moments donnés partager avec une personne et puis après se retrouver à partager avec une autre personne. Ce qui va être dangereux, c'est l'exclusivité en plus sur un long terme. Si je me retrouve pendant une année à partager que avec ma sœur ici, eh bien on va se retrouver en danger. Vous ne croyez pas, c'est une loi naturelle. Tout comme si je lâche mon crayon, il tombe par terre. C'est une loi physique. Le stylo qui tombe par terre, l'attraction de la terre, c'est une loi spirituelle, naturelle, que des liens se créent au niveau de l'âme et que les étapes suivantes se franchissent, l'âme, corps et esprit, en quelques étapes. Donc en fait, on n'a pas développé là. L'intimité spirituelle, c'est la connexion au niveau de la foi. Est-ce que vous avez la même foi? Est-ce que vous partagez la même façon d'approcher Dieu? Est-ce que vous avez le sentiment d'un même but, une même direction dans la vie? Le niveau de consécration que vous avez, c'est pas ça le problème entre un mari et une femme. Ce qui va être la difficulté, c'est est-ce que vous avez le même? Est-ce que un des deux époux va donner sa vie à 100% à Dieu, ou voire à 150%, et l'autre à 20%? Est-ce que c'est mal de donner à 20%? Non, c'est son choix, son droit. Le problème, c'est que s'il y a un gros décalage entre les deux niveaux d'investissement, il va y avoir des difficultés quand vous allez rentrer à la maison le soir, parce que il y en a un des deux qui voudra être là aux trois cultes, et l'autre dira « mais non, on n'a pas de temps en famille ». Les deux positions sont à respecter. Quel est votre niveau l'un par rapport à l'autre? C'est l'endroit où on devient le « nous ». C'est là que vraiment on devient un. Au niveau de l'âme, quand on devient un, au niveau de l'esprit, quand on devient un, là, on est en train de créer le « nous ». Est-ce que vous avez les mêmes convictions au niveau moral, éthique, etc., existentielles, les grandes questions, avortement, etc., vous en avez parlé, pas parlé? Quelle est votre position à ce niveau-là? C'est l'endroit où on partage notre propre relation avec Dieu. Attention, le mariage n'annule pas non plus ma relation privée avec Dieu. Dieu reste le premier dans ma vie. Et ensuite vient mon mari. Si je développe bien ma relation avec Dieu et que je la partage avec celui qui est mon conjoint, voilà quelque chose qui tisse des liens très forts entre les deux époux. Concrètement ?
Voilà, alors, des idées pour développer une communion, une amitié au niveau spirituel. Priez pour votre conjoint dans votre temps personnel avec Dieu. Ça semble une évidence. Malheureusement, c'est tellement évident que ça ne l'est pas. C'est-à-dire qu'on peut passer ses journées sans prier, sans avoir une pensée pour son conjoint et demander au Seigneur de le ou la bénir. C'est important de parler au sujet de votre propre relation avec Dieu. Au début de notre mariage avec Rachel, on s'est dit, bon, on est mariés maintenant, donc on va prier ensemble. Je me suis dit, bon, je suis le chef de la famille, donc on se met à genoux au pied du lit, Seigneur, je vais finir de prier, allez, à ton tour. Et puis, j'exagère à peine, c'était sec. Il n'y avait rien, il ne se passait rien. Ça ne marche pas. On est mal parti, on est jeune marié, on n'arrive pas à prier vraiment ensemble. Et en fait, par contre, on parlait beaucoup. On parlait beaucoup des choses de Dieu. Et Dieu a exaucé des choses que nous avions partagées simplement en en parlant, sans prier pour ça. Et quand on s'en est rendu compte...
Sans prier formellement.
Formellement, oui. Le Seigneur nous a montré en fait que quand on parlait comme ça de choses spirituelles, il était avec nous. Et c'était une forme de prière et de relation avec lui. Ça ne veut pas dire qu'on ne prie pas ensemble, on prie ensemble, régulièrement même. Mais en fait, ce n'est pas formel. On a appris que la relation entre nous est plus importante que le formalisme ou le fait de prier à un moment précis, etc. Maintenant, pour chacun, ça peut être différent, mais nous, on a découvert qu'on fonctionnait mieux comme cela. Et qu'en fait, c'était une manière d'être en communion ensemble avec Dieu.
Donc, si vous êtes en préparation de couple, on vous conseille de ne pas prier tout seul dans votre chambre. Pour les raisons qu'on vient d'expliquer, parce que les trois étapes sont extrêmement proches et vous risquez de vous retrouver dans une situation que vous n'auriez pas souhaité trop vite. Prier dans un endroit public, prier dans une salle où quelqu'un peut rentrer, prier dans une pièce où quelqu'un peut passer sans que vous ne puissiez le prévoir. Pour vous, gardez. On entend des pasteurs déconseiller à deux futurs fiancés de prier ensemble. Moi, je n'irai pas jusqu'à vous dire de ne pas prier ensemble, mais ne vous mettez pas en danger. Ne soyez pas dans une pièce où vous êtes sûr d'être seul pendant de longues heures. Même des fois quelques
idées. Lisez le journal. Lisez le journal spirituel de l'autre. C'est un moyen, si chacun est d'accord, ne lui piquez pas pour regarder ce qui se passe. Là, les résultats seraient inverses à ce que vous espériez. Mais c'est bien de savoir où en est l'autre. Si je vous disais par exemple, pour ceux qui sont mariés, quelle est la dernière chose que Dieu ait dit à votre conjoint? Et si vous me dites j'en sais rien, eh bien ça veut dire que là il y a un manque. Vous devriez savoir pourquoi. Parce que quand je prie, puisque nous sommes un, aussi au niveau spirituel, dans notre communion, peut-être que Dieu va répondre à ma femme. Et moi, je dis, mais Seigneur, tu réponds pas. Mais si, il l'a déjà fait. Mais si on n'établit pas une communion spirituelle entre nous, et qu'est-ce que Dieu t'a dit la dernière fois? eh bien, je ne le saurais pas qu'en fait, il m'a répondu au travers de ma femme. Et on l'a vu nombre de fois se réaliser. Quand vous étudiez, par exemple, un livre que vous lisez, ou un passage de l'Écriture, ou un livre de l'Écriture, eh bien, dites à votre conjoint ce que Dieu vous dit. En quoi ça vous nourrit, en quoi ça vous interpelle, parce que vous êtes un, donc vous avez besoin de le savoir. Découvrez, bon, différents styles de prière, on l'a vu, etc.
Bon, quelques questions encore sous le même format. Qui est Dieu pour vous? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question pour vous et pour votre conjoint? Quelle est la leçon que vous avez apprise de la manière la plus difficile dans votre vie? Est-ce que vous vous en souvenez? Qu'est-ce que ça a changé pour vous aujourd'hui? Décrivez votre relation idéale avec Dieu, ce qui vous aidera à comprendre les objectifs. Où est-ce que vous voulez aller dans votre relation avec Dieu? Qu'est-ce qui ralentit votre marche spirituelle en ce moment? Est-ce que vous avez un problème de manque de pardon? Est-ce que vous avez des batailles spirituelles? Est-ce que vous êtes épuisé? Est-ce que vous avez des problèmes de colère? Est-ce que vous êtes révolté? Et donc, comme Eric a dit, qu'est-ce que Dieu a dit en dernier à votre conjoint?
Ok, vas-y.
Donc, c'est toutes ces briques sont une démarche logique de construction que Dieu a prévue pour qu'on apprenne à se découvrir en profondeur. Donc, on a vu intellectuel, social, récréationnel, émotionnel, spirituel. 5 niveaux. Si vous avez eu l'impression d'en manquer un ou deux, c'est bien de faire le point. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on construit l'amitié, eh bien, ça se passe entre la première fois où on se rencontre et normalement, on a le temps de le construire jusqu'au moment du mariage. Pourquoi? Parce que le jour de la nuit de noces, normalement, c'est le moment où on va devenir physique, où on va franchir le dernier barreau. Eh bien, une loi, encore une fois, que Dieu a créée, fait que lorsque l'on devient physique, la construction de l'amitié s'arrête, comme ce gel, quelque part, au niveau où vous en étiez. Donc, si vous vous souvenez de notre schéma avec les 5 barreaux, si vous êtes devenu physique, et on va définir de façon soft physique, devenir physique, ça va être dépasser la barrière que vous vous étiez fixée avant le mariage. Pour certaines personnes, ça va être se tenir la main, c'est aller trop loin. S'embrasser, c'est aller trop loin, ou plus. Chacun décide pour son propre couple. Mais dès que vous franchissez et qu'un des deux se sent... Avant le mariage. Un des deux se sent bousculé au niveau physique, vous avez gelé la construction de l'amitié.
Quand la relation physique arrive après le mariage, etc., la construction continue. Mais ce que l'on voit comme une règle vraiment permanente, c'est que quand un couple, au moins dans la tête de l'un des deux, a passé la ligne rouge... pas forcément aller jusqu'au bout de la relation physique, mais la ligne rouge a été franchie. Même s'ils se marient après ensemble, cela brise plusieurs choses. La relation d'amitié s'interrompt là où elle était, à ce moment-là. Ce qui fait qu'il y a des gens qui ne sont pas amis ensemble, qui ont eu du physique ensemble, mais ils ne partagent que très peu l'un avec l'autre, parce qu'en fait, ça s'est interrompu et ça, je le développerai plutôt la semaine prochaine, ça... C'est pour vous faire revenir en dernière semaine, mais ça interrompt et ça détruit aussi le respect que la femme va avoir pour son époux.
C'est une loi spirituelle. Donc
ce n'est pas sans conséquence.
Quand on dit, ah oui, la Bible enseigne que, et Dieu dit que la partie sexuelle est réservée pour le mariage, c'est pas pour nous punir, c'est pas pour punir les jeunes, pour dire oui, on va vous priver de quelque chose, Dieu est méchant avec vous. Non, c'est pour vous protéger et que justement ce dernier barreau soit le plus beau possible, soit ce que Dieu a prévu, cette union, cette fusion qu'il a prévue entre l'homme et la femme. Et pour pouvoir y arriver, il faut que tout ait été construit dans l'ordre avant. Parce que l'acte en soi, s'il n'y a rien pour le soutenir, c'est juste un peu de sport. Ça ne va pas vous créer une fusion.
C'est du sport à haut risque.
Oui. Ça ne va pas vous créer une fusion l'un avec l'autre. Pour qu'il y ait ce vrai épanouissement, il faut que ça soit construit et du solide. Les hommes et les femmes fonctionnent différemment, on le verra la semaine prochaine. Évidemment, pour que la femme soit épanouie et heureuse, il faudra qu'il y ait bien plus que juste le côté sportif.